Il s'agit d'une installation, d'une œuvre d'art qui est conservée au Mucem, de l'artiste égyptien qui s'appelle Mouataz Nasser, et qui a été réalisée à partir de pancartes et de banderoles collectées sur la place Tahrir en janvier 2011. Donc, cette œuvre d'art, enfin, je vais terminer ma présentation par cette œuvre d'art et parler plutôt en amont de tout le travail de recherche que moi j'effectue sur les slogans et qui, comme tu le dis, Farida, en fait, renvoie pour moi à la fois une matérialité d'une forme textuelle et puis à la matérialité de la mobilisation, de l'action collective aujourd'hui. Donc je prendrai juste une petite précaution méthodologique. Donc moi je viens de la littérature contre toute attente et donc j'ai été confrontée avec des slogans aux incarnations matérielles en fait des discours, d'une forme de discours social tout à fait spécifique qui a très très peu intéressé jusque-là pour des raisons qui tiennent justement à sa matérialité, c'est-à-dire qu'il s'agit de quelque chose qui est rarement archivé, rarement conservé et qui connaît des vies en fait sociales assez variées. Donc mon premier point donc c'est sur la matérialité des slogans. Moi en tant que littéraire donc je m'intéresse plutôt à des formes qui sont déjà textualisées sous forme de livres, de recueils d'aphorismes ou de recueils de slogans. Donc j'ai pris en compte de façon inédite pour moi, grâce à une enquête ethnographique au cours de la révolution égyptienne et une observation de la manifestation égyptienne, j'ai pris en compte donc la matérialité de ces formules textuelles qui vous sont apparues donc, dans l'œuvre de Mouataz Nasser, mais qui, in situ, peuvent apparaître de cette façon. Donc ici, il s'agit d'un arbre sur lequel les gens venaient inscrire leur slogan au cours du sit-in sur la place Tahrir. Ceux qui sont déjà allés au Caire reconnaissent peut-être derrière le célèbre bâtiment du Mugamma, qui est l'endroit où toutes les procédures administratives se font dans la douleur. Vous avez également ce genre de dispositif au sein de la manifestation, puisque les manifestants brandissent, banderoles et pancartes, qu'ils ont eux-mêmes fabriqués et attendent comme ça dans la manifestation d'être photographiés. Donc. Vous avez également tout un ensemble de créations d'objets, comme ce monsieur qui a fait un petit chapeau avec un drapeau égyptien. Et les slogans se matérialisent également sous une forme orale. Donc je vais vous...
Lecture.
On a pas
un livre pour monter le son.
Bon, je vous épargne l'entièreté de la vidéo. Donc cette vidéo-là, je l'ai trouvée sur YouTube. Elle correspond particulièrement à un mode de profération spécifique, me semble-t-il, de la manifestation telle que j'ai pu l'observer en Égypte, qui est un mode de profération polyphonique par un système de call and response, où des improvisateurs s'avancent dans la manifestation à l'aide d'un répertoire de formules stabilisées et improvisent des proférations pendant lesquelles le public réuni autour répète et crée comme ça des micro-récits qui sont une façon en fait d'appréhender un récit révolutionnaire en train de s'ébaucher à partir de formules stabilisées donc au sein de répertoires. Donc j'ai tenu à vous montrer la diversité de ce qu'on peut appeler des scènes énonciatives des slogans, qui sont au-delà même de formules textuelles et ont un pouvoir rhétorique en fait qui excède, les charmes de la formule et les charmes poétiques de la formule, angle sous lequel on les aborde d'ordinaire. Les slogans au-delà de ça sont des objets fabriqués, des pancartes, des objets proférés selon certaines modalités, et cette dimension de fabrication elle est extrêmement importante dans mon travail, dans ce, où j'ai mis en fait à l'étude ce qu'on peut appeler une poétique au sens large du slogan, c'est-à-dire des modes de fabrication sémantiques, à la fois poétiques et matérielles, pour des individus pris dans des situations collectives qui peuvent paraître parfois, dans le cours des événements, un tout petit peu confus. Ainsi, il y a une dimension formulaire des slogans qui est importante dans leur mode de fabrication, je dirais, textuelle, puisque les slogans sont pris dans des séries, ce sont des matrices, en fait, à partir desquelles les individus inventent, un peu dans l'esprit des plaisanteries ou des jeux de mots. Et il me semble constituer une interface très singulière entre l'individu et le collectif, puisque c'est une espèce d'activité minimale de fabrication pour les gens qui leur permettent de s'agréger, en fait, tout simplement, à une action collective. Au-delà donc de ces slogans in situ, je ne sais pas si je vous laisse la vidéo derrière, je vais peut-être l'enlever, ces slogans in situ, les slogans connaissent, en aval de l'action du mouvement social ou de la situation révolutionnaire qui les a vus naître, et des vies sociales et variées. C'est-à-dire que moi, en tant que moi, j'étais partie d'une réception à distance, on va dire, des slogans par le biais de recueils, notamment ceux de mai 68, et éventuellement aussi d'une réception littéraire des slogans. La question de la réception et celle de l'évaluation, la question d'une valeur de ce qui peut apparaître comme une forme poétique mineure était aussi un fil de ma réflexion, et je reviendrai en reparlant de l'œuvre de Mouattaz Nassar. Ça n'est pas du tout anodin pour la question de la conservation, au contraire. Pardon, je me suis perdue dans ma phrase. En aval donc de ces situations d'émergence des slogans, il y a tout un pan de réception et de circulation qui fait partie complètement intégrante de la vie des slogans, et qui se caractérise donc par le fait qu'ils sont des formules à la fois extrêmement éphémères, extrêmement volatiles, qui survivent très rarement ou selon certaines modalités à l'action qui les a vues naître, et à la fois qui se répètent dans le temps lorsqu'elles elles parviennent à intégrer des répertoires militants, par exemple. C'est-à-dire que certains groupes ont des répertoires de slogans dans lesquels ils puisent. Dans le cas de la révolution égyptienne, par exemple, ça se traduisait par le réemploi d'anciens slogans issus de luttes anciennes, par exemple les mouvements étudiants des années 70, ou encore la lutte pour la Palestine, qui était plutôt un mouvement transrégional. Et donc il y a comme ça des résurgences de slogans qui sont systématiquement réadaptés à la situation en cours. Donc il s'agit d'une forme éphémère et itérative qui se patrimonialise ou pas, puisqu'il y a également des morts du slogan, certains slogans ne survivent pas à l'action, et qui donc intègrent des répertoires militants ou bien peuvent connaître également des vies culturelles assez variées. Et c'est là où je voulais en venir avec mon installation artistique. L'œuvre de Mouattaz Nassar nous présente le cas d'une réception à la fois d'une réception esthétique de ces formules qui pose plusieurs problèmes, c'est-à-dire que vous avez mentionné le fait que cette œuvre avait été effectivement mise en scène dans une salle qui semblait fermée. Il s'agissait de la galerie dans laquelle cette œuvre avait été exposée, et ça pose un problème double qui est celui de la fétichisation éventuelle des productions contestataires, qui ouvre de façon assez logique à une forme de commoditisation, on va dire, c'est-à-dire de transformation en bien marchand extrêmement importante, puisque je peux le dire ici, cette œuvre a un coût. Elle a été achetée 24 000 euros par le musée. Chaque pancarte qui constitue cette œuvre, donc de 50 pièces, coûtait la modique somme de 500 euros, et que donc par conséquent, c'est une vie possible des slogans produits par un mouvement révolutionnaire qui n'est pas sans poser problème. Donc, je signale en outre, et peut-être que je vais m'arrêter là puisque la minute est sans doute largement écoulée, que de façon tout à fait étonnante, l'œuvre de Mouattaz Nassar a été conservée dans la section art contemporain d'un musée de société, donc ça pose quelques questions. Et pourtant, en fait, les problèmes qui sont posés par ces phénomènes de patrimonialisation, de commoditisation, ouvrent la voie à une conservation paradoxale, en fait. C'est-à-dire que ces éléments individuels qui ont été glanés sur la place Tahrir n'auraient certainement pas été conservés comme tels. Or là, on les a. En même temps, on ne peut pas vraiment y accéder parce que désormais, ils font partie d'un tout indivisible qui est cette installation de Mouataz Nasser. Et puis par ailleurs, on ne peut pas vraiment y accéder parce que maintenant elles sont dans les collections du musée. Au-delà de ces questions d'accès et de patrimonialisation, une autre difficulté que j'entrevois à ces formes de patrimonialisation, ce serait ce qu'on pourrait appeler une ossification de ces formules qui, in situ, peuvent apparaître comme un outil ou même un outil de subjectivation collective en fait. Ces phénomènes de patrimonialisation font disparaître les émotions spécifiques que l'on peut ressentir lorsqu'on participe à une action collective. Et je crois que je m'arrêterai là.